Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwarz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, notre invité est l'historien Dominique Bourrel pour son nouvel ouvrage « L'abécédaire de Moses Mendelssohn » qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Chaque semaine, nous recevons ici des intellectuels, des chercheurs, des écrivains, des artistes, des libres penseurs qui éclaire notre regard sur le monde juif, son histoire et ses voies contemporaines. Ce soir, je vous le dis, c'est un véritable plaisir de vous accueillir dans cette émission. Alors, quelques mots pour vous présenter à celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, membre de l'Académie franco-allemande, spécialiste reconnu de la culture juive allemande, et vous êtes l'auteur de nombreuses études, dont deux biographies majeures, sur Moses Mendelssohn, paru chez Gallimard en 2004, et sur Martin Buber, paru chez Albin Michel en 2015, puis en 2023. Vous avez reçu de nombreux prix, vous avez dirigé le Centre de recherche français de Jérusalem, et vous êtes également un enseignant incontournable de l'Institut Elie Wiesel, où vous avez d'ailleurs souvent évoqué Mendelssohn et les penseurs de la Scala. Votre actualité, c'est donc la parution toute récente de ce nouveau livre, L'abécédaire de Moses Mendelssohn, aux éditions de l'Observatoire. Dans cet ouvrage, après une introduction qui présente Moses Mendelssohn, figure majeure du judaïsme des Lumières et penseur central de l'Aufklärung, vous avez choisi des textes majeurs de sa pensée. Il faut rappeler que Mendelssohn était philosophe, critique littéraire, traducteur de la Bible et acteur décisif de l'émancipation des Juifs, et il fut l'un de ceux qui ont redéfini la place du judaïsme dans l'Europe du XVIIIe siècle. Pour rendre accessible la richesse de son œuvre, plus de 30 volumes mêlant allemand et hébreu, tradition juive et pensée moderne, la forme d'un alphabet raisonné a été choisie, entrant par thème dans l'univers intellectuel de Mendelssohn. À chaque entrée répond un texte sélectionné qui permet au lecteur de découvrir le point de départ de la cohérence d'une pensée profondément attachée à la rationalité et au dialogue entre cultures. Cet abécédaire offre ainsi un guide vivant pour comprendre un philosophe dont la voix, trois siècles plus tard, demeure étonnamment actuelle. Alors, la première question qui s'impose, Dominique Bourrel, qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir à Moses Mendelssohn à travers la forme très particulière d'un abécédaire? Est-ce que c'est simplement parce qu'on vous l'a demandé?
Pas tout à fait quand même, mais bonsoir, merci d'abord m'avoir invité. C'est parce que je trouvais au début que c'était d'ailleurs une idée un peu curieuse, parce que justement, comme vous l'avez dit, quand il y a un peu plus de 30 volumes dans 3-4 langues, on n'a pas tellement envie de faire de découpage, et j'avais fait d'ailleurs un barbarisme, j'ai dit Mendelssohn ne se laisse pas facilement abécédériser, mais en réalité c'est un très bel exercice. D'abord il m'avait été proposé justement par la direction de la collection, comme vous le savez il y a déjà 5-6 volumes comme ça, et l'idée de simplement donner la parole à Mendelssohn sans, alors même si c'est un peu frustrant, mais sans en rajouter, pas seulement sans mettre des notes de bas de page, mais sans mettre les gens avec lesquels il dialogue, avec les gens qui contestent. Alors c'était au début un peu frustrant, et puis après finalement j'ai trouvé que c'était un très bon exercice, parce qu'après tout, l'important c'était quand même ce qu'il a à dire et ce qu'il a à écrire. J'en profite d'ailleurs avec cette phrase, avec ce qu'il a à dire, pour signaler que nous fêtons cette année le centième anniversaire de l'inauguration de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui a été d'ailleurs fêté, j'allais dire, dans un silence assourdissant un peu partout et dans le monde et ici, et qu'il y avait une très belle phrase de Rousseau qui disait « Tant qu'il n'y a pas un endroit où on peut écouter ce que les Juifs ont à nous dire, on ne pourra pas discuter avec eux. » Et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire que Rousseau, qui n'a pas dû croiser beaucoup de Juifs dans son existence, a immédiatement pointé cette affaire-là en disant « On a besoin de lycées, d'universités où on peut écouter les Juifs. » Et là, je trouvais que c'était une très bonne occasion. C'était un peu, encore une fois, un peu parfois rapide, où on avait toujours envie de se dire « Bon, mais là, c'est pas possible, on ne peut pas y aller comme ça. » Et puis finalement, ceux qui ont dirigé la collection ont trouvé que ça pouvait aller. Et je voulais aussi signaler qu'il paraît en même temps qu'un choix de texte aussi de Averroès. Et donc on a affaire à deux penseurs, si vous voulez, qui sont des penseurs religieux, mais qui étaient des penseurs qui ne pensaient pas que la religion ne pouvait pas s'accorder avec la raison.
Alors on reparle encore un petit instant de la forme. Les directeurs de collection, c'est Dominique Schnapper. Fabrice Gardel. Finalement, est-ce que ce n'est pas un atout, ce qui aurait pu apparaître comme une contrainte, ce style de l'abécédaire? Et vous finissez l'introduction où vous écrivez « Ce volume n'a d'autre ambition que d'inciter à le lire et à le méditer. Conformément à l'objectif de la collection, il ne donne que des textes de sa plume. »
Voilà, c'est vrai. Non, c'était une très bonne idée. En plus, comme tous les vrais directeurs, ils ne sont pas tous comme ça, mais ces directeurs-là de la collection, bien évidemment, ils ont retravaillé ce texte, ils m'ont aidé, etc. Et c'était vraiment un travail passionnant à faire.
Je vais vous demander quelque chose de très difficile. C'est en deux phrases. Pour celles et ceux qui ne le connaîtriez pas, qui est Moses Mendelssohn?
Alors, c'est le grand-père du musicien Félix Mendelssohn. Il faut toujours commencer comme ça parce que ça, les gens connaissent. Et c'est un des grands philosophes allemands et européens du XVIIIe siècle. Et comme vous l'avez dit, il est non seulement philosophe, mais il a traduit la Bible en allemand, ce qui était quelque chose de tout à fait extraordinaire à l'époque. Il est en même temps quelqu'un qui écrit un allemand tout à fait extraordinaire, alors qu'à l'époque, la philosophie était soit en latin, soit en français, surtout en Allemagne. Et c'est aussi quelqu'un qui, dans son livre absolument central, qui s'appelle Jérusalem, que j'ai traduit il y a très longtemps et qui est paru avec une préface d'Emmanuel Levinas, qui a été bien évidemment un de mes professeurs, le grand texte fondateur du judaïsme moderne, c'est-à-dire du judaïsme qui explique qu'on peut être en même temps orthodoxe et en même temps participer à la culture environnante.
Alors, il était en même temps tout, dans les langues dans lesquelles il écrivait, il traduisait la Bible, vous l'avez dit, il connaissait Leibniz, Kant. C'est une des rares personnes à avoir conjugué tous ses atouts.
Alors, c'est une des premières personnes, en tout cas. Après, c'est devenu, j'allais dire, presque une habitude. Mmh. Beaucoup de juifs, philosophes ou médecins allemands qui se basent justement sur son travail et sur son existence. Son existence et son incarnation, je puis dire, étaient presque aussi importantes que sa pensée, parce qu'il y avait des tas de gens qui ne l'avaient pas lu, qui savaient qui c'était, mais qui ne l'avaient pas lu. Jusqu'en 1933, en tout cas, en Europe, beaucoup de juifs qui se sont mis à justement dialoguer avec le monde moderne. On parlait de Bar-Ilan tout à l'heure, d'être médecin et qui étaient en même temps des juifs, y compris même, j'insiste toujours, des juifs pratiquants, c'est-à-dire des gens qui ne signaient même pas une lettre le vendredi soir. Et on en a trouvé beaucoup, y compris au Collège de France. Comme vous savez, je me suis intéressé à certains professeurs du Collège de France, comme le grand Salomon Munk. Salomon Munk qui était arabisant, qui était hébraïsant, qui a traduit le Guide des Égarés, qui était président de l'Alliance, tout ce que vous voulez. Le vendredi à 6h, il arrêtait de signer. Alors que c'était pourtant des gens qui ont fait des carrières, j'allais dire, citoyennes et professionnelles, absolument époustouflantes.
On a pu dire, après son Phédo, on l'a qualifié de Socrate juif. Est-ce que cette formule est appropriée selon vous?
Oui, tout à fait, parce que d'abord c'était un clin d'œil au texte, donc vous l'avez dit, le Phédon qu'il a repris et réactualisé, et c'était quand même un texte central, parce qu'à l'époque la philosophie était très proche du matérialisme ou du déisme, et alors il pensait que la figure de Socrate et le texte de Platon étaient un très bon prétexte pour combattre ces gens-là. Et donc, il y a à peu près deux tiers qui sont restés des dialogues de Platon et le reste qui est de la philosophie contemporaine de l'époque, c'est-à-dire Leibniz, Christian Wolff, etc. Et donc, c'est vrai qu'on l'appelait le Socrate ou le Phédon de l'Allemagne. Les gens étaient stupéfaits c'était un véritable best-seller, hein, ça a été traduit en 10 langues rien qu'au XVIIIe siècle. Et même Kant, qui lui, d'ailleurs, est pas facile à lire, trouvait que c'était une prose tout à fait extraordinaire, ce qui est d'autant plus intéressant, comme vous savez, c'est que c'était pas sa langue maternelle, puisqu'en fait il vient d'un endroit extrêmement traditionnel, et donc il parlait bien évidemment l'hébreu à la maison. Et il a une langue tout à fait déliée, très agréable, d'ailleurs pas très difficile à traduire, moins difficile à traduire que d'autres comme les gens de sa tradition, c'est-à-dire Franz Rosenzweig, etc., où là ça devient vraiment difficile. Et les gens étaient stupéfaits que quelqu'un comme ça puisse avoir un allemand aussi coulant et aussi agréable à lire.
Alors c'est pareil, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quelques notions clés? Donc la notion des lumières, qu'est-ce que c'est, la Aufklärung, comment on passe à la Haskalah, et quel rôle Moses Mendelssohn a joué? Est-ce qu'il en a bénéficié ou c'est lui qui a fait bénéficier ce mouvement?
Alors c'est ça qui est très, très intéressant, parce que justement il a beaucoup donné mais beaucoup reçu. D'abord parce qu'il arrive à Berlin. Berlin est une ville au XVIIIe siècle avec Frédéric II qui est un roi philosophe, avec l'Académie des sciences, avec des Huguenots, c'est-à-dire des protestants français qui sont là depuis la révocation de l'édit de Nantes. Donc il y a vraiment une atmosphère intellectuelle absolument extraordinaire. Il y a aussi une classe de philosophie dans cette académie, ce qui était un novum en Europe. Et donc, forcément, il avait, lui, un autre métier, si je puis dire, puisque ce n'est pas du tout un universitaire. Il travaillait dans une fabrique de soie parce qu'il était le précepteur du patron. Et c'est très intéressant parce qu'il arrive vraiment quasiment comme petit commis, ce n'est pas tout à fait le cas, précepteur des enfants, et il terminera directeur. Et directeur, il y a tout un volume sur son travail, j'allais dire commercial, qui est aussi très impressionnant. Et donc, l'idée, si vous voulez, de la Aufklärung, ce sont des lumières sans athéisme et des lumières françaises avec ce supplément religieux. C'est que des fils de pasteurs, très souvent en Allemagne, ce qui fait que, forcément, il n'y avait pas tellement de problèmes. Ils voulaient se bagarrer contre l'athéisme, mais il n'y a pas d'athées en Allemagne au XVIIIe siècle, en tout cas très peu. C'est ça qui est intéressant. Ce qui n'est pas le cas en France, et ce qui n'est surtout pas le cas à Berlin et à Potsdam, où il était, avec Frédéric II, Voltaire et tous ces gens-là qui étaient là. Donc c'est pour ça que ces lumières allemandes, un peu comme les lumières italiennes, sont des lumières qui ne gagnent pas leur degré, si je puis dire, en tapant contre la religion, pour le dire familièrement. Et ça donne forcément une coloration tout à fait extraordinaire, et c'est pour ça que lui, il dit toujours, moi mon problème c'est pas l'athéisme, mon problème c'est pas de faire les preuves de l'existence de Dieu, tout le monde sait qu'il existe. Très souvent, il dit à ce moment-là, mais dans la religion juive, on n'a pas de preuves comme ça à donner. C'est quelque chose qui est absolument clair. Alors, on peut faire de la philosophie, c'est bien expliqué dans Jérusalem. Mais la philosophie, c'est quelque chose de très humain. C'est quelque chose qu'on peut faire. Mais la religion, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui peut se greffer ou vivre avec ça. Et ça, les Français, c'est pour ça que ça a été traduit, les Français étaient absolument stupéfaits.
Alors justement, on a parlé de symbiose judéo-allemande. Est-ce que cette expression est à propos ? Est-ce que c'est un idéal, un mythe, une réalité historique ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors ça, c'est un peu compliqué, comme vous savez. C'est la question qu'on se pose depuis beaucoup de temps, en tout cas depuis Scholem. Alors ça dépend, comme toujours, je ne vais pas avoir la facilité d'utiliser cet argument. Qu'est-ce qu'on veut dire symbiose ? Comment ça se présente, etc. On a fait dire d'ailleurs beaucoup d'âneries à Scholem, qu'on n'a pas dit autant. Il avait simplement dit que, et son analyse était juste, mais c'est parce que son analyse, elle date d'après 1933, et même d'après pendant la République de Weimar. C'est-à-dire que l'idée que les Juifs, ce serait parler à eux-mêmes, et que les Juifs, quand ils faisaient une thèse sur Goethe ou une thèse sur Lessing où ils apprenaient l'allemand parfaitement, ils raflaient des prix Nobel, il y a un effet Einstein, etc., en disant « oui, c'est formidable ». Et on dit « oui, mais ça, c'est toujours des Juifs qui parlent avec des Allemands ». Les Allemands, alors il y en a qui sont moins antisémites, il y en a quelques-uns qui sont plus philosémites, mais l'idée que ça s'appelle vraiment une symbiose, Scholem n'était pas très d'accord avec l'emploi de ce terme. En réalité, très vite, d'ailleurs, les gens de son entourage lui ont dit « écoutez, vous trompez un peu », mais le phénomène historique s'est arrêté, bien évidemment, net. Ça, Buber l'a reconnu. Rosenzweig meurt en 29, donc c'est pas tellement son problème. Sauf que Rosenzweig, il a une phrase très belle là-dessus en disant « il faut être allemand et juif sans discuter du « et ». Mais il faut être et allemand et juif. » Et ça, c'était forcément leur grand mantra de Mendelssohn jusqu'à 1933, voire même 1939. Même un peu plus, puisque j'ai retrouvé des gens qui, dans les Hobeck, dans le camp de concentration où il était, ils faisaient des cours sur Mendelssohn et Lessing. C'est quand même tout à fait extraordinaire, quoi. Donc ça, alors moi, je préfère employer le terme de passion dans les deux sens. Vous comprenez, des passions vers la langue allemande, passion vers la philosophie, et puis passion aussi, la manière dont ça s'est terminé. Dont ça s'est terminé, et comme je l'ai glissé un peu dans cette introduction, où ça a commencé à refleurir, en tout cas à Jérusalem, en tout cas à New York, en tout cas autre part, puisque toute une série de ces juifs allemands, ceux qui avaient réussi à en réchapper, ont été encore une fois des gens qui ont essayé d'avoir un rôle important dans la culture, dans les sciences, et ça a été tout à fait le cas.
Est-ce qu'on pourrait dire que Moses Mendelssohn est l'un des premiers à avoir prouvé qu'on pouvait être à la fois universel en restant profondément juif ?
Peut-être, je me méfie toujours, moi, en historien, bien sûr, de l'idée qu'on puisse être premier dans quelque chose, parce que vous trouvez toujours quelqu'un qui va, et on a trouvé, ouais, par exemple, les rabbins italiens du XVIe siècle, qui savaient parfaitement le latin, qui étaient médecins, et alors il y a souvent un prodrome de cette Haskalah, etc. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Mendelssohn, il y a toute une école, il y a tous ses disciples, il y a tous les gens qui commencent à rentrer à l'université, et qui commencent à faire parler d'eux, par exemple, en littérature, Heinrich Heine, etc. Alors il y en a qui vont se convertir, il y en a qui vont pas se convertir, convertir. Ça, j'allais dire, après, c'est un détail, c'est pas tout à fait le cas, mais on lui en a beaucoup voulu pour ça, parce qu'une grande partie de sa famille s'est convertie, bien évidemment, mais parce qu'on oublie toujours qu'il est mort en 86, comme Frédéric II, avant la Révolution française. Donc après, ça pose le problème de qu'est-ce qu'on fait avec, et c'est des choses qu'on discute encore aujourd'hui, avec le problème de la citoyenneté, avec le pouvoir et les devoirs à partager, etc.
Comment vous résumeriez sa méthode ? Une sorte d'articulation entre tradition juive, rationalité, philosophie et modernité ?
Tout à fait comme ça, parce que de temps en temps, par exemple, quand vous le lisez avec application, ce qu'il faut faire quand même quand on fait de l'histoire de la philosophie, c'est parfois... Et il enlève un raisonnement là où un raisonnement est chrétien, là où par exemple il cite Leibniz, dans le texte original, il enlève Leibniz et il met le Talmud. Là où on ne l'attendait pas, par exemple, c'était un grand journaliste, un des premiers qui faisait des critiques de livres, 1750, 1760, etc. Et tout d'un coup, il fait un compte-rendu sur le Talmud, en disant, tiens, il y a deux volumes du Talmud qui viennent de paraître, du genre, on pourrait mettre le nez dedans, quoi. Parce que quand même, c'est quand même pas rien. Donc, vous voyez, par petites touches comme ça, non seulement ce qu'il incarnait lui-même, mais la manière dont il écrit, et puis surtout, ce qu'il écrit. Il y a cinq ou six volumes en hébreu. Mm-hmm. Bon, il avait un hébreu absolument parfait, enfin, un hébreu du XVIIIe siècle, entendons-nous. Mais ça, pour ça, c'est très intéressant. Et même une fois, d'ailleurs, vous parliez du Phédon tout à l'heure, après, il réfléchit, il dit, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que j'en fais un en hébreu aussi ou pas ? Et alors, il dit, mais nous, on n'a pas de problème avec l'immortalité de l'âme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On ne va pas commencer à faire un traité pour prouver l'immortalité de l'âme, alors que ça fait quelque chose qui va de soi. Donc vous voyez, c'est par petits coups comme ça, et puis il y a un ton. Il y a un ton, il y a une ambiance, il y a quelque chose qu'on va retrouver. Alors effectivement, en tout cas jusqu'à Martin Buber et jusqu'à la fin, jusqu'à l'anéantissement, en tout cas total, dans les Buber avait écrit maintenant, cette fameuse symbiose, elle est terminée. Mais même lui, quand il parle en allemand, quand il continue de parler en allemand à Jérusalem, et on parlait justement du centième anniversaire de l'université hébraïque, mais au début, les Français pensaient que c'était une université allemande. Comprenez, les professeurs qui venaient à l'université hébraïque, ils venaient d'où ? Ils venaient bien évidemment d'Allemagne et de Mitteleuropa, où ils avaient été scolarisés en Allemagne.
Alors, il faut dire que votre livre est très accessible, l'introduction est facile à lire, et puis il y a cet abécédaire avec un certain nombre d'entrées qui vont de l'Académie de Berlin à l'hébreu, en passant par Frédéric II, l'État juif. Comment vous les avez choisis ? Est-ce que c'était difficile de faire un choix ?
Oui, c'était difficile. Il y avait en même temps une difficulté, parce qu'il y avait un nombre de pages imposées, etc. Mais après, quand vous traduisez, c'est un peu... c'est une certaine facilité. Parce que, par exemple, si vous avez Absolute, vous commencez par Absolu, et puis vous continuez. Alors, je voulais terminer avec le Yiddish, parce qu'on lui a fait dire beaucoup de méchanceté. Donc, du coup, je l'ai fait commencer avec Abel. J'ai commencé avec Abel et terminé avec le Yiddish, parce que bien évidemment, il a une ou deux lettres terribles. Pas contre le Yiddish d'ailleurs, mais en disant c'est ou l'allemand ou l'hébreu. On ne peut pas continuer à faire ça. A beaucoup nuit, et là il avait bien évidemment tout à fait raison, ça a beaucoup nuit. Maintenant le Yiddish a repris une espèce d'aura, et maintenant plus personne n'est là pour le parler, ou presque, ça a repris une espèce d'aura, mais lui il a dit mais attendez, on doit s'intégrer dans une société, il faut parler la langue de cette société. Dans son cas c'était l'allemand, on a les mêmes textes avec l'abbé Grégoire en France, disant écoutez on ne peut pas continuer de faire comme ça, parce qu'on ne peut pas communiquer tout simplement. Où voulez-vous émanciper ? C'est une grande différence entre émancipation et assimilation. Assimilation, c'est que vous lâchez l'affaire, vous lâchez tout. Alors là, vous pouvez toujours vous convertir, c'est grave, mais tout le monde s'en fout, c'est pas le problème. Bon. Mais l'émancipation, c'est justement, alors il n'y a qu'à parler. Et c'est ce qui faisait parler et écrire les deux langues.
Alors on peut dire, hein, cette entrée, citer quelques phrases, parce qu'aujourd'hui, c'est un regard amusé que l'on porte. Pour le Yiddish, il dit, vous l'avez traduit, « Je verrai d'un très mauvais œil si le dialecte judéo-allemand et le mélange d'hébreu et d'allemand étaient avalisés par la législation. Je crains que ce jargon n'ait pas peu contribué à l'immoralité de l'homme du commun. »
Voilà, vous avez tout dit. Vous savez que on l'appelait jargon, ça voulait dire, c'était le yiddish quand on disait jargon. Hein. Et alors, vous comprenez, comme il a eu aussi une activité, politique, administrative, on lui demandait des recommandations pour les histoires les plus techniques, par exemple l'enterrement le jour même, etc. À chaque fois, et les rabbins de Berlin disaient, ben écoutez, monsieur Mendelssohn, là, vous allez nous donner un coup de main, on va... Et alors, les autres arrivaient avec des textes en yiddish, et vous êtes tombé sur la tête. On a affaire avec l'administration, et surtout que l'administration prussienne était une administration très moderne, moderne et absolument remarquable. En disant, il faut que ce soit une vraie langue, vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Alors, c'est vrai que c'était de temps en temps un peu forcé, mais la plupart du temps, toute son école, Salomon, Maimon, Friedlander, Ben David, toute cette Ascala dont vous avez parlé, ceux-là, ils savent un allemand absolument parfait et immédiat. Et il y a alors quelque chose qu'il faut toujours signaler, c'est cet amour du monde juif, en tout cas du monde juif askénaz, pour la langue allemande. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ils ont une espèce de passion. Alors, c'est aussi probablement pour des raisons d'émancipation, mais cette passion pour la langue allemande, je crois que c'est Hannah Arendt qui disait « la langue est quelque chose de plus que la... » Ou Hannah Arendt ou Rosenzweig, mais je crois que c'est Hannah Arendt qui disait « la langue est plus que le sang. »« Sprache ist doch mehr als Blut. » C'est quand même quelque chose qu'ils ont vraiment ressenti. Et alors là, on a des anecdotes merveilleuses où les gens disent « mais vous savez, les Juifs, de toute façon, ils ont interprété Kant, ils ont fait des éditions. » C'est des éditeurs, comprenez. Ils sont en même temps dans cette symbiose judéo-allemande, ils sont éditeurs, mécènes, intellectuels, ils font tous les métiers. Donc c'est pas difficile après. Donc cette fascination pour la langue allemande est quelque chose de très étrange, parce que je crois qu'on la retrouverait pas, alors à ce niveau-là, dans d'autres langues. Par exemple, je vais vous confier, je devrais pas le faire, mais moi quand j'étais étudiant, personne savait, enfin savait, il y a quelques-uns, que Proust était juif. Ça n'intéressait personne. Et Bergson, y tout. Donc vous voyez, c'est grand qu'aujourd'hui, on parle que de ça, mais alors à l'époque, ça passait de manière totalement inaperçue, si vous voulez. Donc ce rapport avec la langue allemande, pour des raisons qui seraient très intéressantes d'ailleurs à étudier, mais il faudrait demander à des linguistes ou à des traducteurs, ce que je ne suis pas, c'est très étonnant. Et ça s'est joué après encore à Jérusalem, quand ces pauvres juifs allemands sont arrivés à essayer d'apprendre l'hébreu, à essayer de faire un oulpan. C'était une véritable catastrophe. Et encore aujourd'hui, on en voit quelques-uns qui écrivent de manière translittérée et qui donc tournent les pages dans le mauvais sens. Ils font les discours, notamment c'était Max Brod qui faisait ça au moment des enterrements. Alors Max Brod commençait à lire et tout le monde rigolait parce que forcément, les pages étaient tournées dans l'autre sens.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Dominique Bourrel, qui nous parle de son abécédaire de Moses Mendelssohn, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes l'un des grands spécialistes du judaïsme allemand. D'où vient cette passion, c'est un mot que vous aimez bien, cette passion pour cette histoire?
Je pense que c'est un peu, sans blaguer, c'est vraiment un peu un hasard. C'est parce que je suis une espèce de produit un peu bizarre de Heinz Wissmann et d'Emmanuel Levinas. C'est-à-dire que j'ai eu Wissmann en première année de philo, ce qui a été bien évidemment pour tous les gens de notre génération, d'ailleurs, et d'autres, quelque chose de central. Et puis j'ai eu Levinas comme prof. Je ne savais pas qui c'était, bien évidemment, avant, parce que moi, je viens d'une famille de catholiques de province. Et donc, simplement, je faisais une licence de philo à la Sorbonne. Et c'est une très bonne question, parce que maintenant que je vieillis, je me demande toujours ce qui serait passé si, par exemple, au lieu que ça soit Levinas, ça aurait été Arkoun. Est-ce que c'est parce que après, après c'est pas difficile, c'est pas vrai. C'est-à-dire après il faut accumuler les bourses, le travail, aller vivre là-bas, revenir, apprendre la langue, enseigner dans la langue, etc. Mais ça, moi je suis membre de la société asiatique. Tous mes copains ils font ça. Ils enseignent en vietnamien sans notes. Ils ont jamais vu un vietnamien de leur vie avant de faire les langues zoo, etc., etc. Donc ça. J'ai pas d'explication, parce que avant j'étais d'ailleurs plutôt mauvais élève dans cette famille. On parlait pas du tout, en tout cas si on parlait de juifs, moi j'écoutais pas, parce que je m'intéressais qu'au football et qu'à Johnny Hallyday. Non, ça c'est vrai, c'est vraiment vrai d'ailleurs. Donc si vous voulez, non, je réfléchis beaucoup, parce que par exemple là il se trouve que c'était là que j'habitais, donc j'étais scolarisé à la Sorbonne à Paris 4. Mais si j'avais été à Nanterre, enfin là, en France, à ce moment-là, je pense qu'avec Jean Kelevitch, avec Derrida, avec Levinas, donc, et ça aurait probablement quand même matché, comme disent les journalistes. Mais c'est pas du tout sûr. Là, Levinas, ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce que vous voyez même physiquement la différence. Vous avez les autres, les profs, les types, ça, puis tout d'un coup, vous tombez sur un petit monsieur, comme ça, avec d'ailleurs lui aussi, une langue un peu recherchée, une langue, mais ça, c'est un truc d'émigré. Après, nous, on connaît bien ça. Après, quand vous voyez, les gens, ils s'appellent ou Louis ou Charles. Donc, les gens qui s'appellent Louis et Charles, un coup sur deux, c'est comme les miens, si je puis dire, qui s'appelaient Friedrich. Ils ont pris les prénoms les plus typiques pour montrer qu'ils sont... En ce moment, je suis en train de travailler sur un des premiers professeurs de physique et de mathématiques de l'université hébraïque. Et le pauvre, il s'appelait Adolphe. Donc, forcément, il y a
Adolphe
un
comment
prénom. Il s'appelait Adolphe. C'était pas Rosenthal. Le nom va me revenir tout de suite. Alors, il l'a appelé Frankel. Alors, il s'est appelé après Abraham. C'est plus facile parce qu'il y avait Adolphe. En fait, son nom hébreu devait être Abraham, parce que c'était un juif pieux en plus. C'était le grand physicien et qui a enseigné en hébreu immédiatement, peut-être professeur en Allemagne. Et donc, si vous voulez, ça c'est quand même très intéressant de voir que cette histoire-là s'est rejouée, même quand il... Et c'était aussi une sorte de message, quoi. C'est-à-dire, maintenant, il n'y a plus d'Allemagne, il n'y a plus de Prusse, que Berlin est sous les bombes, et vous avez encore des gens, et beaucoup, hein, aux États-Unis, par exemple, et là, dont alors, aux États-Unis, les Français s'en aperçoivent moins, parce que les Américains ont enlevé le H devant, ont enlevé les deux N de Mandelson, ont enlevé les deux S de Mandelson. Alors, moi, vous pensez, le nombre de gens qu'on parle d'Epstein, alors qu'il s'appelle Epstein, donc pour un Français moyen, c'est un peu difficile à trouver, mais pas pour les autres. Après, il s'appelle Frenkel.
Oui, Frenkel, classique. Oui.
Ouais, absolument.
Après tant d'années de travail sur Moses Mendelssohn, est-ce que le personnage vous touche encore?
Absolument. Oui. Parce que je découvre d'abord des choses, comme toujours, quand vous le reprenez, quand vous... Puis maintenant, on a cette édition. Moi, quand j'étais jeune, j'ai commencé. C'était à peine fait. Je suis allé un an aux États-Unis pour travailler avec Alexander Altman, qui était le grand éditeur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'allais là-bas. Et donc, au fur et à mesure, elle vient de se terminer. Cette édition, c'est toujours à l'allemande. Hein. Vous en avez 3 ou 4 mètres. Vous avez des... C'est pour ça qu'on les aime, quand on les aime. Et donc, il y a des choses tout à fait extraordinaires. Et puis, alors, j'ai une chance formidable. J'ai été mêlé très tôt dans à la recherche de Mendelssohn. C'est moi qui ai fait les livres en livre de poche à l'époque, les Allemands. Parfois, d'ailleurs, les étudiants, ils se demandent si c'est bien le même qu'a fait une édition en livre de poche des Heures matinales, des Morgenstunden, en 79, chez Réclame, dans la petite collection jaune, et si c'est le même, quoi. Enfin, ils ne demandent pas si je suis pas mort, mais presque, quoi. Donc là, j'ai une chance, absolument. Mais en Allemagne, les gens ne travaillaient pas beaucoup sur ces questions-là. C'est pour ça que j'ai eu la chance d'être en spectateur et d'accompagner un peu tout ça, puisque j'ai fait 2 éditions de poche de Mendelssohn qui ont été utilisées pendant 20 ans. Quoi. Avant qu'il y a maintenant des nouvelles, et puis il y a une société Mendelssohn, il y a que si vous allez à Berlin, il faut absolument aller voir le musée Mendelssohn, parce que ce qui est fascinant, c'est qu'il y a toute une famille, c'est quasiment une tribu. Quoi. Alors, ils sont tous des bac plus 15, profs, juges, journalistes, éditeurs, enfin, donc ça, c'est très intéressant.
Comparaison n'est jamais raison, comparer le passé au présent, mais quand même... Est-ce que vous pensez que Moses Mendelssohn peut être utile aujourd'hui, peut-être même nécessaire dans ce contexte d'antisémitisme qui ressurgit en France et en Europe?
Ça, je suis malheureusement pas sûr. La seule chose pour laquelle il peut jouer un rôle important, en tout cas chez les gens qui vont le lire, c'est que les gens ne croient pas que le judaïsme, c'est que du délire. Ne croient pas que le Talmud, tout ce qu'on entend, ben, personne n'a expliqué, heureusement, comme ça, que c'était que du délire. Que ça, c'est que du délire. Qu'il y a plus qu'un socle rationnel et que la plupart du temps, justement parce que c'est un homme du XVIIIe siècle, ils sont aussi du côté de la raison. Parce qu'après, quand vous abandonnez la raison, c'est foutu. Même celui qui était le plus emblématique, qui était un des grands profs de philosophie allemande, qui était Husserl, dont on oublie toujours que c'était un juif converti, il a quelques textes tout à fait extraordinaires en disant « il ne faut jamais oublier la raison et il ne faut jamais la laisser comme ça par profiter perdre ». Et alors, moi qui viens d'une famille catholique assez conservatrice, c'est le même problème, comprenez? Et alors, dans Averroès, c'est le même problème aussi. Ce n'est pas parce qu'on est un homme de foi que on doit donner foi et croyance à tous les délires.
Et donc la question corollaire, est-ce que sa pensée, elle, notamment sur la tolérance, elle peut être encore entendue aujourd'hui?
Ça, absolument, parce que ça, c'est une pensée qui va même plus loin que celle de John Locke. C'est une pensée qui est très ouverte, qui est, même, j'allais dire, presque avec un sou. Même les athées ont le droit de citer pour lui. Simplement, ils ne doivent pas déranger la vie en société. Mais le problème, c'est pas du tout... Il est opposé aux religions d'État, en disant ces religions d'État, c'est une véritable catastrophe. Ça, c'est situé, c'est au XVIIIe siècle. C'est une véritable catastrophe. Et la raison, c'est de l'ordre de la conviction et on ne peut pas accepter quelque chose de violent dans ces problèmes de conviction. Et alors ça, c'est tout à fait classique et très important aujourd'hui, et pas seulement pour les Juifs.
On lit le livre, on picore des entrées, on peut le lire de manière totalement non linéaire, et puis on le referme et on a envie d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lit une de vos biographies? On lit des textes de lui? On lit son Jérusalem?
Oui, ça, alors, c'est la première des choses, très honnêtement. Parce que c'est en livre de poche, c'est chez Folio, et c'est vraiment un texte qui a eu un rôle absolument classique, et c'est pas très gros. Et c'est, non seulement, les autres aussi sont très compréhensibles, mais là, c'est très compréhensible, vraiment. Et puis, le reste, on a quand même beaucoup, maintenant, de textes qui ont été traduits, notamment les textes littéraires. Et puis, on a des travaux. Alors, pour les traductions, c'est difficile, mais on a maintenant des choses sur sa traduction de la Bible. disponibles. Par exemple, Lederman a fait ça un très beau livre là, sur l'exégèse, et c'est quelque chose qu'on a quand même pas mal travaillé, et ça, c'est pas très difficile en français. Et là, il y a une petite bibliographie française.
Il y a une question classique pour terminer cette émission. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire ce livre ou de l'offrir, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Alors, parce que c'est d'abord un homme d'honneur, ce qui est très important. C'est un homme d'honneur et c'était un vrai juif qui était un vrai citoyen du pays où il habitait.
Merci beaucoup, Dominique Bourrel, d'avoir accepté de parler avec nous de votre actualité. L'abécédaire de Moses Mendelssohn, un livre vraiment que je recommande, qui est très facile à lire. Les fêtes de fin d'année arrivent et parfois on ne sait pas quoi offrir. Un bouquet de fleurs qui est périssable, eh bien, offrez ce petit ouvrage. Merci, à très bientôt.
Merci à vous.
Le président de Radio Shalom vient de nous rejoindre. Bonsoir, Bernard.
Bonsoir, j'ai entendu le président, je me suis dit, waouh. Il y a Macron qui arrive.
Ah bah il faut dire les titres quand même.
Bernard, voilà.
Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Nous sommes en pleine campagne à Laudon. Radio Shalom a besoin du soutien de toutes et tous. Pourquoi, Bernard ?
Eh ben chiche, je vous pose la question à vous. Pourquoi on a besoin de Radio Shalom ?
Parce que Radio Shalom offre une autre information qu'on ne trouve pas sur d'autres radios, parce que Radio Shalom nous donne ce sentiment et cette réalité d'être ensemble et puis de pouvoir partager des thématiques qui sont chères à nos cœurs, Israël, le peuple juif et peut-être la mémoire aussi.
Alors, ce qui se passe, c'est que d'abord, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais bon, effectivement, comme je suis un peu responsable de cette équipe, Radio Shalom, c'est une équipe indépendante. C'est-à-dire que nous, je suis journaliste, c'est les journalistes et les animateurs qui font la radio. On n'a pas d'actionnaire qui est au-dessus de nous. On n'a pas de, alors qu'on a toujours eu auparavant, mais là, il n'y a pas. Et c'est un très beau projet. Les gens le sentent, je crois qu'on est Radio Shalom. En fait, c'est vous, c'est nous, quoi. C'est la Radio Shalom, c'est la radio, c'est votre radio, que vous la retrouviez sur les réseaux sociaux, que vous l'écoutiez sur la bande FM. Et il se trouve que là, on finit l'année. Il y a des gens qui cherchent des CERFA, donc c'est vraiment le moment de leur dire qu'on a besoin d'aide. Nous, ça nous aide à boucler le budget. Et c'est vrai que si on n'a pas les moyens, là maintenant, nous, en fait, on fait deux métiers. Moi, j'en fais trois parce que je suis journaliste, je fais le journal tous les soirs, le forum. Le deuxième, c'est que maintenant, on est sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment un truc. Nous, en tant que journaliste, en radio, auparavant, on n'était pas obligé de le faire. Aujourd'hui, c'est vraiment, Radio Shalom, c'est un média. On est présent aussi sur le net. Et après, il faut faire de la gestion. Moi, je pense qu'il faut nous aider parce qu'il faut nous donner les moyens. Il faut nous donner, nous on a le cœur, donnez-nous les moyens.
Alors finalement, c'est défendre la liberté, défendre l'indépendance et puis la possibilité pour Radio Shalom de continuer tout simplement à faire son métier.
Tout à fait, je vais juste donner l'adresse et ajouter autre chose, c'est que peut-être les gens, moi par exemple des fois j'ai un peu le sentiment un peu confus comme ça, que voilà, grâce à Dieu les otages sont rentrés et il y a une période qui s'est terminée. Moi je vais vous dire le contraire, il faut continuer. Oui, on est en pleine accalmie, et oui, heureusement, la plupart des otages sont rentrés, mais il faut continuer, et il faut nous aider à continuer. La position des Juifs en France a encore besoin d'un média fort pour les défendre, pour illustrer, pour dire la vérité, pour donner la vraie information. Radio Shalom, c'est la vraie information. Et souvent, les sources, c'est d'Israël. Vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, concrètement, Bernard, comment on fait pour continuer à aider Radio Shalom ?
Alors, on a fait... les gens connaissent bien le principe maintenant. On a ouvert une page Allodon. En fait, c'est un site internet qu'il faut faire Allodon sur son Google, allodon.fr. Après, sur place, c'est marqué « Chercher l'association ». Il faut chercher Radio Shalom avec un S, S-H-A-L-O-M. Et là, on fait le don de la nature qu'on veut, de la somme que l'on veut, et on a un CERFA qui est immédiat. Il arrive sur notre adresse mail immédiatement.
Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à soutenir Radio Shalom pour toujours avoir une information vraie. À très bientôt.